Ces derniers temps, on a pu constater une disparition anormale des colonies d'abeilles dans l'hémisphère nord. Des chercheurs ont même parlé d'un syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Plusieurs causes sont évoquées et certaines ne font pas l'unanimité. Mais finalement, de quoi en retourne-t-il? C'était une mission idéale pour Anne Le Bessy et Alexandra Le Seigneur.
Novembre au matin, dans une salle de rédaction hyper stylée.
Anne, tu as vu? Le Parlement européen vote une nouvelle résolution sur la santé des abeilles.
Hein?
Bah oui, les abeilles disparaissent, t'étais pas au courant?
Bah ouais, ça, je le savais, mais...
C'est hyper grave.
Pourquoi?
Bah justement, j'ai rencontré Martin Dermine. Il est apiculteur et administrateur au CARI. C'est le centre apicole de recherche et d'information, tu connais? Écoute ce pur son.
C'est le nouveau 4S?
Sans abeilles, donc un tiers du contenu de nos assiettes disparaît. Et ce tiers, c'est ce qui nous apporte le plus de vitamines, d'oligo-éléments, donc c'est les fruits et les légumes principalement. Quand ça disparaît, ça tue toute une chaîne alimentaire. C'est un impact beaucoup, beaucoup plus large que juste notre alimentation à nous.
Tu comprends, Anton?
Hey.
Sans abeilles, plus de transport de pollen d'une plante à l'autre. Plus de pollen, plus de fécondation. Plus de fécondation, plus de fleurs. Plus de fleurs, plus de fruits. Plus de fruits. Bah, plus de fruits.
Ouais, mais attends, il n'y a pas que les abeilles qui s'occupent de la pollinisation.
Écoute un peu.
Se dire, oui, mais si l'abeille disparaît, c'est pas grave, d'autres insectes pollinisateurs vont prendre la relève, c'est tout à fait faux, parce que l'abeille est vraiment le symptôme du mal-être de l'entomofaune, et donc, sans abeille, ça veut dire qu'il n'y a plus de bourdons, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'autres insectes pollinisateurs, et de l'abeille, en plus d'être sentinelle de l'environnement en général, c'est une sentinelle de notre modèle agricole hyper productiviste qui utilise énormément de produits chimiques très toxiques.
Ouais, d'accord, mais c'est quoi cette histoire de pesticides? C'est dangereux, enfin. Ça m'intrigue trop. On n'irait pas voir un spécialiste S-abeille?
Bonne idée, ma banane. Il y a une unité d'entomologie à Jean Blou. Let's go! T'as pas autre chose?
Je crois que c'est ici.
Y'a quelqu'un? Voilà Monsieur Nguyen. Il est expert en matière d'abeilles. Viens, on va lui demander ce qui cause leur mort.
Alors si je devais donner une échelle sur ce qui a été identifié, la majorité c'est... La cause principale c'est le varroa.
Varroa?
C'est une sorte d'acarien.
C'est quand même important en taille, je sais pas si vous avez déjà vu. On vous a déjà montré.
Ouais, sur l'abeille.
Ça fait un millimètre plus ou moins. Il y a des ruches dans lesquelles j'en trouve 8 sur une abeille. Vous imaginez. Ça perce, et lorsque ça perce, ça peut injecter, justement, et activer aussi des virus. De manière unanime, le varroa, c'est le facteur numéro 1. Ensuite, vous avez des problèmes de virus. On a également un problème de nourriture pendant l'hiver, un problème de nourriture avant l'hiver. En moyenne, un apiculteur, plus il a des ruches à un même endroit, plus là de la mortalité. Alors on a observé qu'en fait, il n'y avait pas assez de nourriture dans l'environnement pour leur permettre de toutes survivre. Donc c'est évidemment, il y avait une quantité qui était moindre. Alors il reste une partie qui est inexpliquée. Les pesticides dans ce cas-là pourraient être responsables, ou encore des virus, mais alors avec des quantités peut-être moins, des quantités plus importantes, des quantités de manière plus insidieuse, en fait, simplement.
Cette enquête n'était pas terminée. Les différents facteurs qui causaient la mort des abeilles se bousculaient dans notre tête.
Ouais, dans ta tête.
Oui, bon. Nous décidâmes alors de rencontrer un apiculteur qui pourrait mettre fin à nos doutes. Stan Zouk, apiculteur dans la province de Namur, était notre homme.
Moi, j'ai des pertes relativement au-dessus de la moyenne de manière générale, parce que forcément, je fais de la sélection d'abeilles résistantes au virus. Et donc, pour qu'elles résistent, il faut qu'elles subissent une pression de sélection. Et donc, si moi je liquide tous les varroas de mes ruches, il n'y a pas moyen de savoir à laquelle résiste et à laquelle ne résiste pas. Donc, les varroas, je les laisse abondamment dans mes ruches. J'ai fait des comptages, j'ai compté des centaines de milliers de varroas sur des plateaux pendant des années pour bien comprendre la logique du développement des populations de varroas. Et donc, typiquement, je perds, disons, 20%, 25% des colonies. Sauf une année, en 2007, l'hiver 2007-2008, où j'ai perdu 23 ruches sur 26. Donc, on a fait des analyses avec le labo de Jean Blou. Et ils ont pris des échantillons ici dans 13 ruches. Ils ont tout analysé. Et il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé. Donc, évidemment, on a analysé les résidus de pesticides, puisqu'à ce moment-là, on avait pris les échantillons en février, et c'était 2 mois après la mort des ruches. Donc, clairement, dans ce cas-là, c'est une intoxication environnementale, mais à quoi on n'en sait rien, on ne le saura jamais.
Monsieur Zouk avait l'air d'en connaître un rayon sur le sujet qui nous intéressait. Là, tu as raison.
Au début des années 90, l'industrie des pesticides a mis au point de nouveaux types de pesticides qui sont des neurotoxiques. Ce sont des produits par rapport aux produits précédents qui ont une toxicité absolument phénoménale. Pour donner une idée sur criquet migrateur, le fipronil est utilisé à 2 grammes par hectare. Alors 2 grammes, c'est même pas une cuillère à café. Vous répandez ça sur 2 hectares et plein d'insectes qui bougent. Donc les traitements de semences sont arrivés dans les années 90, petit à petit, un peu partout en Europe.
Traitement de semences?
Tout à fait. J'ai vérifié et en gros, ça consiste à enrober les graines que les agriculteurs vont semer. Pour cela, on utilise un pesticide dit systémique. On l'appelle comme ça parce qu'il reste dans le système de la plante à tous les stades de sa croissance. Le problème, c'est qu'au moment de semer les graines, ce produit, comme la clothianidine par exemple, peut créer énormément de poussière.
En 2008 à peu près, là, il y a eu un gros accident en Allemagne. Il s'est avéré qu'en fait, c'était bien des intoxications par pesticides dues aux poussières de semis. Et comme ce sont des semences enrobées, au moment où ils font le semis, ça émet de la poussière. D'autant plus qu'il fait sec, donc les années humides, il n'y avait pas de problème. Les années où il fait sec, ça fait énormément de poussière. Et donc au bas de Württemberg en Allemagne, hein, le Land qui est un petit peu au sud-est du Luxembourg, ils ont perdu 11 500 ruches en 15 jours. Et là, comme tout a crevé d'un coup, on ne pouvait pas dire que c'était une maladie qui, comme par hasard, avait attaqué juste cette région-là et pas la région à côté, à l'est ou à l'ouest. Donc là, ils ont fait des analyses de plein d'échantillons, de plein de ruches, etc. Et c'est là qu'ils ont découvert que c'était dû à la clothianidine. Donc ça donne une idée aussi de l'intoxication environnementale générale, puisque si ça a tué toutes les ruches, ben, il ne faut pas demander ce que sont devenus les papillons, les abeilles solitaires, les bourdons et tout le reste dans toutes ces régions-là. Et c'est une région qui fait des centaines de kilomètres carrés, hein. c'est pas deux villages. Quoi.
Mais c'est horrible! Ça devrait être interdit, c'est systémique!
C'est pour ça, Nanas, qu'en Italie, les enrobages systémiques incriminés ont été interdits.
Bah oui, ça, je le sais, c'est moi qui les ai eus au téléphone. Écoute plutôt l'interview que j'ai faite avec Francesco Palella. C'est le président de l'Association des apiculteurs italiens.
Le ministère a été obligé à faire, en septembre 2008, la suspension de l'utilisation de ces enrobages. De 2008 jusqu'en 2011, le ministère de l'Agriculture a lancé une recherche publique qui a mis en clair, un, qu'on peut bien cultiver le maïs sans ces enrobages, tout simplement avec la rotation. Deux, qu'en effet, les abeilles sont empoisonnées, tuées, mais en plus, qu'en effet, ça suffit que les abeilles vont à survoler les champs où il y a le semis parce qu'elles meurent ou bien pour qu'elles portent le venin dans la ruche.
Alors, grâce à la rotation des cultures, si j'ai bien compris, les insectes parasites n'ont pas le temps de s'adapter au terrain. Une bestiole qui préférait le maïs, par exemple, serait vite déstabilisée après que l'on ait planté de la lavande. Du coup, pas besoin de pesticides. Un coup du maïs, un coup du blé, un coup de la betterave.
Un coup du blé, un coup de la betterave.
Le problème des abeilles, comme le suggère M. Zouk, serait plus généralement le problème de l'agriculture intensive, voire de la mondialisation.
Le problème de départ, c'est les accords de l'OMC, qui permettent des échanges non taxés dans tous les sens. Ça veut dire que le type qui produit un kilo de patates, il doit le produire moins cher que le moins cher au niveau mondial. Et c'est ça le gros problème de l'agriculture non rentable en Europe, enfin non rentable ou non financièrement rentable, c'est qu'il est impossible avec les charges européennes de produire moins cher qu'un Chinois ou qu'un Argentin, qui lui à la limite a des milliers d'hectares devant lui, qui au niveau pollution a des contraintes 10 fois plus faibles que les Européens, etc., etc. À partir de ce moment-là, bon, on a intérêt à utiliser des cultures les plus productives possibles, à les bourrer d'engrais, à les bourrer de pesticides, etc. etc. Et s'il y a une nouvelle variété qui produit 2% de plus que celle d'à côté, mais qui ne résiste pas aux champignons ou aux insectes ou à ci ou à ça, on la prend quand même. C'est pas grave, on la met sous perfusion d'engrais et de pesticides. Et donc l'agriculteur, il y gagne 2%. Et 2% de gagner, c'est énorme, puisqu'à la limite, c'est sa marge bénéficiaire. Donc il va le faire. Et l'impact environnemental, ben, il est ce qu'il est maintenant.
La pression économique pousse donc à mettre les problèmes environnementaux de côté.
Tu crois que ça peut changer? Demande à Martin Dermine, il était cool.
Les changements sont très lents et, à mon sens, trop lents, même si le particulier, lui, est de plus en plus conscient de ça. Après, il faut que les politiques suivent et qu'on arrive à être fort face au gros lobby financier qu'il y a derrière tout ce système agricole intensif dans lequel on est depuis des dizaines d'années. Maintenant, c'est au niveau européen que ça se passe, parce que toutes les molécules toxiques pour l'abeille, mais aussi ces molécules qui sont toxiques pour toute la faune, tous les insectes, et aussi un bon nombre d'entre elles sont toxiques pour l'homme, ils commencent à réfléchir à comment mieux évaluer leur toxicité. Mais c'est pas facile parce qu'il y a toujours des nouvelles molécules à évaluer, et de nouveau, le lobby chimique est très présent à tous les niveaux de pouvoir.
Ah ouais ! Et... tu crois qu'il en pense quoi, José Bové ?